François Bon rappelait, lui, une intégrale, ouais, dans l'ordre. Quelquefois, c'est enthousiasmant, c'est toujours enthousiasmant. D'autres fois, on est dans des textes qui conviennent moins à notre esprit d'époque, mais on censurerait Rabelais. Justement, à l'époque, il l'a été. Alors nous, pas. Et on y va. Courageusement, on aura bien d'autres récompenses. Un peu plus loin, comme on en a déjà eu, un peu plus tôt. Chapitre 11. Comment Panurge enseigne une manière bien nouvelle de bâtir les murailles de Paris. Pantagruel, quelques jours pour se récréer de son étude, se promenait vers les faubourgs Saint-Marceau. Voulant voir la folie Gobelin, et Panurge était avec lui, ayant toujours le flacon sous sa robe et quelques morceaux de jambon, car sans cela, jamais ne allait-il, disant que c'était son garde-corps. Et autre épée ne portait-il, et quand Pantagruel lui en voulut bailler une, il répondit qu'elle lui échaufferait la ratelle. « Voir, mais, dit Épistémon, si l'on se assaillait, comment te défendrais-tu ? « À grands coups de brodequin, répondit-il, pourvu que les estoques furent descendus. » À leur retour, Panurge considérait les murailles de la ville de Paris et, en irrision, dit à Pantagruel. Alors, tu vois, par exemple, petite pause, que je les limite au maximum, je me limite. Mais Faubourg Saint-Marceau, la folie Gobelin, mais nous on les aime toujours ces quartiers, on les connaît. Par cœur ces quartiers tenaient de la folie Gobelin. Vous pouvez presque voir la tombe de Joseph Kessel et puis celle de Maupassant et puis celle de Baudelaire et de Tristan Tzara et de Julio Cortázar. Et de la tour Montparnasse, c'est un petit peu plus loin, mais quand on est déjà hors Paris et quand on revient, pas vers d'enfer Rochereau, mais on revient. Venant là vers la vieille enceinte, c'est ça qu'on voit, la limite de la ville. Et puis, comment te défendrais-tu ? À coup de brodequin, la savate, art populaire ? Déjà, oui, à ce moment-là. Et dérision. Vous employez ce mot, dérision ? Moi, je l'emploie jamais, j'aime pas dérision. Mais si on avait gardé irrision, ce serait différent, non ? À leur retour, Panurge considérait les murailles de Paris et en irrision dit à Pantagruel « Voici pas de belles murailles pour garder les oiseaux en mue. Par ma barbe, elles sont compétentement méchantes pour une telle ville comme est cette-ci, car une vache avec un pet en abattrait plus de 600 brasses. » « Oh, mon ami, dit Pantagruel, sais-tu pas bien ce que dit Tagelisaus quand on lui demanda pourquoi la grande cité de Lacédémone n'était pas ceinte de murailles ?» Car montrant les habitants et citoyens de la ville, tant bien experts en discipline militaire, tant forts et bien armés, « voici, dit-il, les murailles de la cité. » Signifiant qu'il n'est muraille que de hausse et que les villes ne sauraient avoir muraille plus sûre et plus forte que la vertu des habitants. Ainsi, cette ville est si forte par la multitude du peuple belliqueux qui est dedans qu'il ne se soucie point de faire autre muraille, et davantage qu'il la voudrait emmurailler comme Strasbourg ou Orléans ou Carpentras. Il ne serait possible tant les frais seraient excessifs. Voire mais, dit Panurge, s'y fait-il bon avoir quelques visages de pierre quand on est envahi de ses ennemis, et ne fût-ce que pour demander « Qui est là-bas » Et au regard des frais énormes que dites être nécessaires si on la voulait murer, si messieurs de la ville me veulent bien donner quelques bons pots de vin, je leur enseignerai une manière bien nouvelle comment ils pourront bâtir à bon marché. « Et comment ? » dit Pantagruel. « Ne le dites donc pas, répondit Panurge, si je vous l'enseigne. Je vois que les calibistrices des femmes de ce pays sont à meilleur marché que les pierres. Dis-ce, faudrait bâtir les murailles en les arrangeant en bonne symétrie d'architecture, mettant les plus grands au premier rang et puis en taluant à dos d'âne, arrangeant les moyens et finalement les petits. » et puis faire un beau petit entrelardement à pointe de diamant, comme la grosse tour de Bourges, de tant de vie qu'on coupa en cette ville aux pauvres Italiens à l'entrée de l'arène. Quel diable déferait une telle muraille ? Il n'y a métal qui tant résistât aux coups. Et puis, que les couleuvrines se y vinssent se frotter. Vous en verriez, par Dieu, un continent distillé de ce benoît fruit de la grosse vérole menue comme pluie. Sec, au nom des diables. Davantage, la foudre ne tomberait jamais dessus. Car pourquoi ? Ils sont tous bénis. Ou sacré, je n'y vois qu'un inconvénient.
Oh, ah, dit Pantagruel, et lequel ?
Et c'est que les mouches en sont tant friandes que merveille, et ce y cueillerait facilement, et y ferait ordure, et voilà l'ouvrage gâté et diffamé, mais voici comme l'on y remèderait. Il faudrait très bien les y moucheter avec quelques belles queues de renard ou bon gros vieux d'as de Provence. Et à ce propos, je veux dire, nous en allant pour souper, un bel exemple. Autant que les bêtes parlaient, il n'y a pas 3 jours, un pauvre lion, par la forêt de Bièvre, se promenant et disant ses menus suffrages, passa par-dessous un arbre auquel était monté un vilain charbonnier pour abattre du bois, lequel, voyant le lion, lui jeta la cognée et le blessa énormément en une cuisse, dont le lion, clopant, tant courut et tracassa par la forêt pour trouver aide, qu'il rencontra un charpentier, lequel volontiers regarda la plaie et la nettoya le mieux qu'il put et l'emplit de mousse, lui disant qu'il émoucha bien la plaie, que les mouches n'y cueillassent point, attendant qu'il irait chercher de l'herbe au charpentier. Ainsi le lion guéri se promenait par la forêt. À quelle heure une vieille sempiternelle ébuchetait et amassait du bois par la dite forêt, laquelle, voyant le lion venir, tomba de peur à la renverse, de telle façon que le vent lui renversa la robe, cotte et chemise jusqu'au-dessus des épaules. Ce que, voyant le lion, accourut de pitié, voir si elle s'était point fait mal, et considérant son commentanon, dit: « Oh, pauvre femme, qui t'a ainsi blessée ?» Et se disant, aperçut un renard, lequel il appela, disant: « Compère renard, oh, ça, ça, pour cause !» Quand le renard fut venu, il lui dit: « Compère, mon ami, on a blessé cette bonne femme ici, entre les jambes, bien vilainement. Il y a solution de continuité manifeste. Regarde que la plaie est grande, depuis le cul jusqu'au nombril, mesure 5 en pans et demi. C'est un coup de cognée, je ne me doute, que la plaie soit vieille. Pourtant, afin que les mouches n'y prennent, émouche-la bien fort, je t'en prie, dedans et dehors. Tu as belle queue, bonne et longue, émouche, mon ami, émouche, je t'en supplie. Et cependant, je vais quérir de la mousse pour y mettre. Car ainsi nous faut-il secourir et aider l'un l'autre, Dieu le commande. Émouche fort, mon ami, émouche bien, car cette plaie veut être émouchée souvent, autrement la personne ne peut être à son aise. Oh, émouche bien, mon petit compère, émouche, Dieu t'a bien pourvu de queue, tu l'as grande et grosse à l'avenant. Émouche fort, ne t'ennuie point, je n'arrêterai guère. » Puis s'en va chercher force mousse, et quand il fut quelque peu loin, il s'écria parlant au renard: « Émouche bien toujours, compère, émouche, et ne te fâche jamais de bien émoucher, par Dieu, mon petit compère, je te ferai être à gage, émoucheteur de la reine Marie, ou bien de Don Pietro, de Camille, émouche seulement, émouche, et rien plus. » Le pauvre renard émouchait bien fort, et de ça, et de là, et dedans, et dehors. Mais la sauve vieille venait et vaissait, puant comme sang, diable, et le pauvre renard était bien mal à son aise. Et ainsi qu'il se tournait, il vit qu'il y avait au derrière encore un autre pertuis, mais pas si grand que celui qui l'émouchait, dont lui venait ce vent en puant et infect. Le lion, finalement, retourne, portant plus de 3 balles de mousse, commença à en mettre dedans la plaie, à tout un bâton qu'il apporta, et y avait là bien mis 2,5 balles, et s'ébahissait que cette « Que diable cette plaie est profonde, il y entrerait de mousse plus de 2 charretées. Eh bien, puisque Dieu le veut, toujours fourré dedans. » Mais le renard l'avisa. « Oh, compère lion, mon ami, je te prie, ne mets pas ici toute la mousse. Garde-en quelque peu, car il y a encore ici dessous un autre petit pertuis qui pue comme 500 diables. J'en suis empoisonné de l'odeur tant il est punais. » Ainsi faudrait-il garder ses murailles, des mouches, et mettre des émoucheteurs à gage. Leur dit Pantagruel, « Et comment sais-tu que les membres honteux des femmes sont à si bon marché ? Car en cette ville, il y a force prude de femmes, chastes et pucelles. »« Et tu bi prenus ?» dit Panurge. « Je ne vous en dirai non pas mon opinion, mais vraie certitude et assurance. » Je ne me vante pas d'en avoir embourré 417 depuis que je suis en cette ville, et il n'y a que 9 jours, voire de mangeresse d'images et de théologiennes. Mais à ce matin, j'ai trouvé un bonhomme qui, en un bissac tel celui d'Ésopée, portait 2 petites fillottes de l'âge de 2 et 3 ans au plus, l'une devant, l'autre derrière. Il me demanda l'aumône. Mais je lui fis réponse que j'avais beaucoup plus de couillants que de deniers. Et après, lui demande, « Bonhomme, ces 2 filles, sont-elles pucelles ?»« Frère, dit-il, il y a 2 ans que ainsi les porte et au regard de cette-ci devant, laquelle je vois continuellement, à mon avis qu'elle est pucelle. Toutefois, n'en voudrais pas mettre mon doigt au feu. Quant à de celles que je porte derrière, je n'en sais sans faute rien. »
« Vraiment, dit Pantagruel, tu es gentil compagnon, je te veux habiller de ma livrée. »
Et le fit vêtir galantement selon la mode du temps qui courait, excepté que Panurge voulut que la braguette de ses chausses fût longue de 3 pieds et carrée et non pas ronde. Et ce fut fait. Et la faisait bon voir, et disait souvent que le monde n'avait point encore connu l'émolument et utilité qui est de porter grande braguette. Mais le temps leur enseignerait quelques jours, comme toutes choses ont été inventées en temps. « Dieu garde de mal, disait-il, le compagnon à qui la longue braguette a sauvé la vie. » Dieu garde de mal à qui la longue braguette a valu pour un jour 100 écus. Dieu garde de mal qui, par sa longue braguette, a sauvé toute une ville de mourir de faim. Et par Dieu, j'en ferai un livre de la commodité des longues braguettes quand j'aurai un peu de loisir. Et de fait, en composa un beau et grand livre avec les figures, mais il n'est encore imprimé que je sache.
Évidemment, je l'ai mis en sous-titre et je tiens à le répéter, jamais je n'ai lu ce chapitre 11 en public, le 12 et le 13, oui, le 13, Thomas. Comment Panurge vaincu l'anglais fit Kino, l'anglais Thomas, mais le 14 qui suit sera encore pire que celui-ci. Alors, est-ce que c'est à moi de m'excuser? Non, je le ferai pas, c'est l'humour des moines. C'est lourd et aujourd'hui totalement inqualifiable, injustifiable. On est d'accord. Par contre, ici, moi, je suis bien obligé d'obtempérer à ce que la contrainte d'une lecture intégrale. Alors, rendez-vous vite à Thomas, et puis vous sauterez aussi le 14 si vous voulez bien. On continue de toute façon. Rabelais, intégrale. Pantagruel, on était chapitre 11, vite la suite, vite la suite.